Voilà, bonjour à chacun. C'est toujours une joie de pouvoir ouvrir la parole de Dieu et de chercher à s'en inspirer. On a chanté tout à l'heure « Le Dieu de victoire habite en moi » avec bon, quelques petites hésitations, hein, parce qu'il faut avoir le bon rythme, il faut trouver les bons mots au bon moment. Mais voilà, ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui, est largement inspiré d'un livre d'un monsieur qui s'appelle Alfred Kuhn et qui est maintenant décédé, mais dont le livre fait encore référence aujourd'hui. Alors c'est peut-être un rappel pour beaucoup d'entre nous de choses que nous avons déjà vécues, mais je crois que dans notre vie, il faut que nous nous rappelions d'un certain nombre de choses. Et on a chanté « Le Dieu de victoire habite en moi » et j'aimerais vous proposer aujourd'hui de nous lire, que nous lisions un passage dans l'épître aux Romains au chapitre 6. Parce qu'en fait, l'épître aux Romains, comme d'ailleurs toute la Bible, vise à nous donner accès à la vérité et à une vérité que nous devons premièrement connaître, une vérité que nous devons croire, que nous sommes appelés à croire. Et ensuite, une vérité que nous sommes appelés à réaliser. Ça sera un petit peu le thème ça sera le thème d'aujourd'hui. Et je vous propose de lire le chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché. Comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie. Et mettez vos membres au service de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur lui, sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié. Alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confié. Et une fois libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même, maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libéré du péché et que vous êtes devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jusque-là, notre lecture. Voilà à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, à une alternative qui nécessitera de notre part un choix. En fait, pour être libéré du péché, d'après la Bible, je dois passer par trois étapes un peu concomitantes, hein, c'est-à-dire qui se passent en même temps, trois démarches spirituelles qui s'adressent à notre raison, à notre foi et à notre volonté. Dans ce chapitre, l'apôtre Paul nous propose une même vérité et une vérité à connaître, dont il faut que nous soyons conscients dans un premier temps, une vérité à croire dans un deuxième temps et finalement une vérité à réaliser et à réaliser dans notre vie. Voilà ce que j'aimerais un peu développer et les pensées que j'aimerais développer avec vous suite à mes pensées, suite à ce que j'ai lu dans ce livre d'Alfred Kuhn. D'abord, une vérité à connaître. Ignorez-vous, dans les 10 premiers versets de ce chapitre, l'apôtre nous communique un faire-part de décès. Oui, ça peut faire sourire, mais en même temps, ça vaut la peine d'y réfléchir sérieusement. Et c'est un faire-part de décès. Et la première question qu'on doit se poser, dans ce faire-part, qui est-ce qui est mort ? Est-ce que ce serait le péché en nous ? Ce serait trop beau. Certains chrétiens l'ont cru, mais ils ont connu de cruels réveils suite à une telle désillusion. Alors, ce n'est pas le péché qui est mort. Qui est mort ? Est-ce que c'est moi ? Ben non, ce serait une absurdité de déduire que nous sommes morts. Ça aurait un petit peu un effet comparable à ce que produirait en nous la lecture dans un journal du faire part de décès d'un de nos homonymes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous regardez la liste des faire part dans le journal. Monsieur Daniel Buech est mort. Paix à son âme, enfin, etc., et toutes les histoires qu'on peut lire après, vraies et profondes, ou alors assez nulles comme histoire. Paul nous dit que c'est, au verset 6, notre vieil homme qui est mort, l'homme que nous étions autrefois, l'homme naturel qui a été crucifié avec Jésus afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance, et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Le vieil homme, alors qu'est-ce que c'est le vieil homme ? Le vieil homme, c'était cette combinaison entre le moi et ce qu'on appelle aussi la chair, ou bien ce qu'on appelle aussi mon incapacité totalement naturelle à faire le bien. Et Paul emploiera plus tard, et vous pouvez le lire chez vous au chapitre 7, dans les premiers versets, il emploie l'image du mariage pour exprimer à quel point nous sommes liés à ce péché. Mais ce mariage, il a été dissous. L'acte d'esclavage qui nous liait au péché a été déchiré. Et nous sommes rendus libres, on pourrait dire délivré de cette incapacité naturelle qui est en nous à faire le bien. Nous sommes naturellement incapables de faire le bien, mais nous avons été délivrés de cela par la mort de Christ. Ça, c'est une partie du message que nous devons recevoir. Dans les versets 1 à 10 que nous venons de lire, Paul nous rappelle que la vie chrétienne commence par une mort, une rupture nette et franche avec le péché. Nous sommes morts au péché, nous n'existons plus pour lui. Alors comment encore vivre sous son empire ou dans le péché? Comment est-ce que nous sommes morts au péché? Une autre question à se poser, à se rappeler. Nous avons été unis au Christ par le baptême. Le baptême, si nous avons été baptisés, ce n'est pas le cas de tout le monde peut-être, mais c'est un encouragement à suivre le Christ par le baptême aussi. Le baptême est un symbole de notre union avec le Christ. Nous avons été baptisés en Christ, dans le Christ, plongés ou introduits dans le Christ. Et plusieurs fois dans ces versets, Paul répète l'expression « en lui, dans sa mort, avec lui, plongé en Jésus-Christ ». Dans les versets 3, 4, 5 et 8, et puis il y aurait encore d'autres références qui le montrent très très clairement. Étant unis au Christ, parce que nous croyons en lui, eh bien nous avons suivi le même itinéraire que Jésus. Jésus est mort et il est ressuscité. Nous le sommes également à cause de la foi que nous plaçons en lui. Et nous passons d'emblée déjà un peu dans le deuxième point. Je vous avais dit que c'était une vérité qu'il fallait d'abord comprendre, et puis une vérité qu'il faut croire. Ça y est, la foi est là. Et il faut aussi croire en cette vérité, placer notre foi en lui. Le baptême est le symbole d'une mort par l'immersion en lui, suivie d'une résurrection. Quand nous avons été baptisés, nous avons été plongés dans l'eau. Mais nous avons été plongés dans l'eau, non pas pour mourir dans l'eau, mais pour ressortir de l'eau. Image de cette résurrection que le Seigneur veut nous donner. Nous sommes, est-il dit, morts au péché. Que voulait dire l'apôtre par cette formule « nous sommes morts pour le péché » ou « morts au péché » ? Dans ce chapitre, elle apparaît trois fois. Et deux fois, elle se rapporte aux chrétiens, c'est-à-dire à moi, au verset 2 et au verset 11. Et elle se rapporte aussi au Christ, lorsqu'il en est question au verset 10. Je reviens au verset 2, « Nous qui sommes morts pour le péché », est-il écrit. Puis au verset 11, il est écrit « De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché ?» C'est là un appel à tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion ou qui n'ont pas encore choisi résolument ce chemin. Cette phrase se rapporte aussi au Christ, nous l'avons dit au verset 10, « Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. » Et John Stott, un théologien du XXe siècle, nous rappelle que si dans la Bible, une même phrase revient dans un même contexte pour des personnes différentes, bien ça veut dire qu'elle a, c'est la même phrase, elle a la même signification. Nous devons donc trouver une explication de cette mort au péché qui soit vraie à la fois pour le Christ et pour le chrétien. Voilà ce que John Stott affirme. Alors, cette mort, nous devons le constater, elle ne peut pas signifier que le Christ a pu devenir insensible au péché. Et nous, non plus, ne sommes pas devenus insensibles au péché. Parce que notre expérience, et la Bible en général, le contredit. Dans la Bible, à chaque fois qu'il est question de la mort et du péché, c'est pour dire que la mort est la punition du péché. Et c'est vrai en partie, c'est vrai notamment dans le verset 23 de ce chapitre 6, où il est dit que le salaire que verse le péché, dans une autre version, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. D'autres versets pourraient le confirmer. Donc, sur la croix, le Christ est mort une fois pour toutes, dans le sens qu'il a porté la punition de ce péché. Et du fait de notre union avec le Christ, de notre identification par la foi avec lui, nous sommes aussi morts pour le péché. Nous le sommes au sens que, en Christ, nous avons aussi subi le châtiment du péché. Ou plus exactement, c'est le Christ qui a subi le péché, le châtiment que nous méritions. Et donc, une nouvelle vie a pu commencer pour nous. Nous sommes morts dans la personne du Christ, notre substitut, qui a payé à notre place la peine que nous méritions pour notre péché. Et donc, à cause de ça, notre nature pécheresse, par la mort, par la puissance de la mort du Christ, a été dénuée de sa puissance. Le Christ, elle a été crucifiée avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Peut-être qu'une image empruntée à la chimie pourrait nous aider à mieux saisir cette réalité. À l'école, on a appris que l'hydrogène, de symbole H, est un gaz incolore et inodore, et sans saveur. Personne n'a jamais vu d'hydrogène. Alors, moi pas, c'est normal, mais vous non plus. Et c'est un petit peu comme ce qui se passe avec notre moi. Vous avez vu votre moi, peut-être dans un miroir, mais est-ce que c'était vraiment votre moi que vous avez vu dans un miroir? Je ne suis pas sûr. À mon avis, personne n'a vraiment vu son moi. Donc, cet atome d'hydrogène, si on le combine avec un autre atome qui s'appelle Cl, du chlore, ce gaz un peu piquant, malodorant, eh bien, si vous mettez ça ensemble, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un acide caustique, dangereux, un poison violent, qu'on appelle l'acide chlorhydrique. Les chimistes appellent cet acide HCl, et nous pourrions prendre aussi l'abréviation HCl comme l'abréviation de l'homme charnel, par exemple. Hein, ça pourrait nous servir de mnémotechnique pour le retenir. HCl égale homme charnel, même si c'est pas tout à fait... Ça rime en tous les cas, hein, même si c'est pas tout à fait comme ça. Mais cet atome d'oxygène, si vous le combinez à un autre atome, cet atome d'hydrogène, vous le combinez avec de l'atome d'oxygène, O, et vous créez un liquide clair, limpide, bénéfique, l'eau, H2O. Hein. Je ne suis pas chimiste au départ, c'est pour ça que ça foire un petit peu des fois. Mais vous voyez très bien où je veux en venir. Cette eau, elle est source de bénédiction. Elle est facteur de vie, à telle enseigne que lorsque Jésus veut parler de la bénédiction qu'apportera un jour le Saint-Esprit à ceux qui le recevront, il évoque des fleuves d'eau vive découlant de lui. Et ça, c'est quand même extraordinaire de savoir ça. Donc, on s'aperçoit que le même corps chimique qu'est l'hydrogène, selon qu'il est uni à tel ou tel autre corps, peut devenir source de bienfaits ou de méfaits. Et c'est pour ça qu'il était question dans ce passage des fruits dont nous avons honte aujourd'hui, qui sont les fruits du péché, et des fruits vers lesquels nous sommes appelés à tendre, des fruits qui correspondent à la justice. Lorsque ce moi, mon moi, est uni à l'Esprit de Christ que Dieu nous a envoyé à la Pentecôte, il va donner la vie et la paix dont il sera question plus tard dans Romains 6, que nous ne lirons pas aujourd'hui. Donc, le péché résulte de l'adhésion de notre moi à mon homme ancien, à l'homme, au vieil homme que je suis, que j'étais avant ma nouvelle naissance. Mais ce vieil homme a été cloué à la croix avec le Christ. L'hydrogène a été séparé du chlore, et si on lui retire l'hydrogène, ben, l'acide chlorhydrique n'existe plus. Il ne reste plus que le chlore qui ne peut pas occasionner grand-chose de dangereux. Alors on peut se demander comment une telle dissociation en chimie peut-elle avoir lieu ? En chimie, elle n'est pas possible d'elle-même. Il faut l'intervention d'un catalyseur externe, en l'occurrence, paraît-il, du zinc. Et si vous mettez de la grenaille de zinc avec l'acide chlorhydrique se met à bouillonner et libère l'hydrogène qu'il contenait. Et pour nous, c'est un petit peu pareil, dans le sens que, de par nos propres forces, nous ne pouvons pas opérer la dissociation de cette combinaison entre notre vieil homme et notre moi. Il faut qu'intervienne la croix de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, le péché a perdu sa force. Nous sommes morts avec lui et nous avons été ensevelis avec lui. Nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne. Et ce fait permet aussi notre libération de cette situation dont nous ne pouvons pas nous libérer par nous-mêmes. Si HCL est dissocié, notre homme véritable aussi devient libre par la mort de Christ qui, sur la croix, a payé à notre place la peine que méritait notre péché. J'arrive au deuxième point, une vérité à croire. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort au péché. Cette vérité de notre mort au péché, elle ne devient efficace dans notre vie que par la foi. À l'époque de l'esclavage, il y a bien longtemps, donc il y a encore un ou deux siècles, des maîtres cruels tyrannisaient leurs esclaves. Puis est venue l'abolition de l'esclavage. Et Livingston rapporte que certains maîtres tentaient de garder ceux qui étaient sous leur coupe dans l'ignorance du décret de libération des esclaves. Et puis lorsqu'ils n'ont plus pu cacher le fait que les esclaves étaient libérables, ils affirmaient simplement que, et froidement, que ce n'était pas vrai. Et les esclaves, dont certains étaient assez sots pour ne pas croire à leur affranchissement, eh bien, ils restaient les esclaves. Et leur situation ne changeait absolument rien, bien que tout ait été accompli pour que leur situation change. Si nous ne croyons pas à notre libération de la puissance du péché sur nous, opérée par la croix du Christ, eh bien, le diable continuera à nous faire croire et à nous convaincre que, jusqu'à notre mort, nous devons obéir à la loi du péché. C'est quelque chose de terrible. Notre moi, notre non transformé, aura toujours son emprise sur nous. Et il faut savoir que notre mort avec le Christ ne sera effective qu'à partir du moment où nous y croirons de tout notre cœur. Comme notre salut, tant que nous n'aurons pas fait ce pas par la foi d'accepter que le Christ soit mort pour nous, bien notre salut sera maître morte, l'être morte. Nous devons donc tenir compte de ces choses et en tirer les conclusions logiques, que nous ne voulons plus rien avoir à faire avec cette vie ancienne. L'apôtre Paul n'affirme pas la possibilité, l'impossibilité de pécher chez le chrétien. Mais ce qu'il affirme, c'est qu'une chose comme ça est incongrue. C'est totalement incompatible de faire perdurer ces deux formes de vie dans notre comportement. C'est ça qui est affirmé. Le secret d'une vie sainte est donc dans notre pensée. Il s'agit pour nous de comprendre que notre vieux moi a été crucifié avec le Christ. Il s'agit de savoir que le baptême qui nous a introduits dans la vie de Christ, en la mort, en sa mort et en sa résurrection, ça, c'est ce qui est déterminant. Et il s'agit de saisir par l'intelligence qu'en Christ, nous sommes morts au péché et que nous vivons pour Dieu. Nous devons connaître ces choses, dans un premier temps, nous devons les méditer, les comprendre, mais surtout admettre qu'elles sont vraies. Et ainsi, on pourrait dire qu'un chrétien ne devrait pas penser davantage revenir à son ancienne vie qu'un adulte qui souhaiterait redevenir enfant. C'est pas, bien sûr, c'est concevable dans des rêves, mais c'est pas réalisable. Un adulte ne peut pas redevenir un enfant. Un homme marié ne devrait pas non plus aspirer à son célibat. Hein? C'est une étape passée. Et donc, c'est cette nouvelle identité qui doit être le mobile de notre nouveau comportement. Et cette vérité à croire est aussi une vérité à réaliser dans notre vie. La connaissance de notre libération serait vaine, la foi serait inopérante, si notre volonté ne mettait pas en pratique ce que nous savons, d'une part, et ce que nous croyons aussi. Il s'agit d'en tirer les conséquences dans notre vie. C'est pourquoi le verset 12 du chapitre 6 commence en grec par un petit mot qui est le mot « donc ». Le mot « donc » est un mot extrêmement important à comprendre dans la théologie de l'apôtre Paul. C'est un mot charnière qui relie deux genres de propositions. Les premières s'adressent à notre connaissance, à notre foi, et les secondes à notre volonté qui doit tirer les conséquences logiques des premières. On pourrait presque dire que le secret de la victoire sur le péché réside dans l'orientation que veut donner à toute notre vie ce mot « donc ». En effet, il va orienter toute notre vie, que nous pouvons recommencer à zéro et que nous pouvons manifester par des choses que nous allons refuser et par des choses que nous allons accepter. Les refus de notre nouvelle logique, puisque l'union entre notre moi et la chair, ou entre notre vieil homme et le péché, a été dissoute, notre vieil homme et le péché ont perdu tout droit et tout pouvoir sur nous. Que le péché ne règne donc plus sur vous, ne vous gouverne plus, n'exerce plus sa domination sur votre cœur. Nous sommes appelés à refuser ses prétentions sur nous. Le péché n'a plus aucun droit sur nous, il n'a plus le droit d'imposer sa loi. Ne mettons pas nos membres à la disposition du péché. Notre moi, notre homme intérieur, dispose librement de tout son être, de tout notre corps, comme un roi disposerait de toutes ses troupes, de tout ce qu'il a à sa disposition. Et nous avons la liberté de mettre tout notre corps à la disposition d'un voisin méchant qui poursuit des proches méchants, ou au contraire, d'un voisin bon pour une bonne cause. La première chose que nous avons à faire est donc de retirer nos troupes, c'est-à-dire nos membres, nos organes du service du péché. HCL a été dissous, mais CL est toujours là, qui cherche à recapter H, qui cherche à recapter l'oxygène pour en faire de l'acide chlorhydrique. Mais nous pouvons, avec notre volonté, refuser cela et refuser cela catégoriquement. Le péché n'a plus aucun droit ni aucun pouvoir sur moi. Je n'ai plus besoin de lui obéir. Faisons encore travailler notre imagination. Supposez qu'un soldat vient d'être démobilisé. Il a reçu son certificat de démobilisation en bonne et due forme, mais pour une bonne raison, il n'a pas encore récupéré ses habits civils. Alors il va faire des courses en ville, et là, en ville, il tombe sur son adjudant, qui l'apostrophe. « Où allez-vous sans ma permission ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous me ferez le plaisir de retourner immédiatement dans votre chambre et de la nettoyer de fond en comble. » Voilà ce que l'adjudant lui dit. L'heureux civil, lui, il lui montre son certificat de démobilisation et lui dit « Je regrette, mon adjudant, mais vous n'avez plus rien à me commander. Je ne suis plus sous votre loi. Je ne suis plus sous la loi militaire, sous vos ordres. » Paul, de même, dit « Le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous le régime de la grâce. » L'adjudant est toujours là, je suis toujours là, en vie, mais la liaison entre nous a été coupée. Je ne suis plus sous la loi de l'adjudant, je ne suis plus sous sa dépendance. De même aujourd'hui, le péché est toujours là, la convoitise est toujours très proche et est très près à nous accaparer de nouveau. Je suis bien vivant et capable encore de céder aux appels de la convoitise. Mais mes sentiments envers ma convoitise doivent être mis à mort. Et ils peuvent l'être. Ils peuvent l'être grâce à ma volonté et grâce au soutien de l'Esprit de Dieu qui maintenant habite en moi et qui veut réorienter ma volonté. Mais ce refus nous incombe à nous. Et c'est par un acte de la volonté que nous devons le signifier à la tentation et au diable. Et tous les verbes de ce passage sont à l'impératif, sont au subjonctif et s'adressent donc à chacun d'entre nous. Chrétiens, n'obéissez pas au péché, ne cherchez plus à satisfaire l'homme que vous étiez autrefois, qui vous entraîne à convoiter. Nous lisons ça dans Romains 6. Dans les versets 12 à 14. Voilà donc ce que nous devons refuser de faire. Les refus que nous sommes appelés à faire sont aussitôt suivis par des réactions positives. Il y a des choses que nous sommes appelés à faire. Et je conclurai simplement en raccourcissant un peu, mais en lisant les versets 16 à 19, qui n'ont pas besoin de trop de commentaires. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié, alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confié. Et une fois libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres au service comme esclave au service de l'impureté et de l'injustice, pour arriver à plus d'injustice, de même, mettez-les maintenant au service de la justice, pour parvenir à la sainteté. Voilà les deux voies qui se présentent aujourd'hui à chacun de nous. Et Dieu, dans sa bonté, nous place ou nous replace devant un choix. Je conclurai en disant « Le jour de son 38e anniversaire, Oswald Smith a prié le Seigneur en disant « Fais de moi un homme selon ton cœur. » Et alors, le Seigneur lui a inspiré une prière par laquelle je terminerai, qui est une réponse à la première prière de cet homme. « Seigneur, voici mes mains. Je te les consacre. puisse-t-elle ne jamais toucher quelque chose que tu ne veux pas, ni faire quelque chose qui te déshonore. Voici mes pieds, je te les donne, qu'ils puissent ne jamais aller où tu n'es pas vu. Voici mes yeux, qui ne regardent jamais quelque chose qui attristerait le Saint-Esprit. Voici mes oreilles, qu'elles n'écoutent rien qui fasse honte à ton nom. Que ma bouche ne s'ouvre jamais pour une parole que tu ne veux pas entendre. Que ma mémoire ne retienne jamais une pensée ou une image qui trouble la conscience de ta présence. Que mon cœur ne connaisse pas d'autre amour, ni d'autres sentiments que ceux qui viennent de toi. Amen. Le Dieu de victoire habite en moi. À bon entendeur. Amen.